chaque situation qui trouble mes pensées, mes aussi le fardeau à tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis.
Seigneur, nous voulons te remettre ce temps entre tes mains. Que ton esprit vienne et prenne le contrôle. Et notre Dieu, tu vois chaque situation, tu les connais toutes. Rien n'est caché devant toi. Mais nous savons que tu es notre puissant soutien, celui qui nous console, celui qui nous tient par sa main puissante, celui qui nous guide. Et celui qui vient à notre secours. Nous voulons nous attendre encore à toi, compter sur ta grâce. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom du Seigneur. Vraiment que l'Esprit du Seigneur prenne le contrôle et que chaque situation qui peut troubler nos pensées, qu'on puisse les déposer au pied de la croix. Et fixer le regard sur Christ. L'Épître aux Hébreux, nous, chapitre 2, à partir du verset 14, il est dit: ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort, c'est-à-dire la sienne, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu, non. C'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine de la relation de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple, car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Amen. Celui à qui nous donnons un culte, celui que nous adorons, ne s'est pas contenté de rester dans le ciel et dire voilà. Il est venu. Il a quitté son trône de gloire, revêtu cette nature humaine. Donc c'est allié, Dieu s'allie à l'homme. Il a vécu comme un homme, naissance là. Il a grandi en sagesse. Sa stature, on le voyait, les hommes le voyaient. On a de lui un bon témoignage et devant Dieu également. Et en rien, il n'a péché. Hier, avec les adolescents, on a vu que même en étant adolescent à 12 ans, Jésus a honoré ses parents. Cinquième commandement. Donc en tout, il a été parfait. Et là, le texte nous dit qu'il est venu pour expier nos péchés. Et ceux qui nous tenaient dans la peur, il a réduit à l'impuissance, hors d'état de nuire. Et parfois, nous sommes là, soucis, les soucis, les tracas. Mais il nous invite à nous reposer sur lui. Ce partage qu'avait fait la sœur Gertrude mardi, le repos. Et dans la suite, au chapitre 3, il est parle du repos de Dieu. Le repos de Dieu. Parce qu'en lui, avec ce qu'il a accompli, nous pouvons nous reposer dans l'œuvre de Christ. En dépit de toute situation, le Christ reste vainqueur, il reste victorieux et nous appelle à vivre dans le repos de sa victoire. Il nous appelle à vivre dans ce repos, dans le repos de sa victoire. Que tes vives eaux inondent, mon âme. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle et lui donner ces situations qui nous... Voilà. Et que nous puissions avoir ces yeux fixés sur Jésus. Les nouvelles peuvent être celles qu'elles sont, mais que nos yeux soient fixés sur notre Rédempteur.
souffle de nous permettre ce matin d'être rassemblés ici en ta présence. Nous voulons te dire merci. Tout au long de cette semaine, tu as été avec chacun de nous. Ô Seigneur, comme le frère disait ce matin, nos tribulations, nos épreuves, Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu demeures fidèle. Ta parole nous dit que celui qui a les regards tournés vers toi, il est rayonnant de joie.
Amen.
Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions. Les épreuves sont là, mais tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas seuls. C'est pour cela que nous voulons être reconnaissants pour les choses que nous voyons.
Merci pour ce que tu fais dans nos vies.
Amen.
Amen.
Gloire
à Jésus.
Ce n'est pas chose vaine. Il ne l'a pas volé. Il le mérite. Il en est digne. Il peut s'asseoir. Et ce Dieu qui règne. Le Seigneur règne. Donc il est. S'il est Seigneur, c'est qu'il est. Il a un trône. Il est roi.
On a une bonne nouvelle. Ce roi nous invite à sa table. Ce roi nous invite à sa table. Et c'est un privilège pour les enfants de Dieu de partager le repas du Seigneur. Jésus, avant de cheminer vers la croix, sur ce chemin du calvaire, a institué ce repas, la scène que nous commémorons dans nos assemblées. Le premier dimanche du mois et aussi le troisième. Et aujourd'hui, c'est parti de ce culte où nous célébrons, nous partageons le repas que le Seigneur a institué. Il a dit à ses disciples de se rappeler de ce geste qu'il allait accomplir à la croix. Ce corps qui allait être meurtri, fouetté, battu, ce sang qui allait couler, et le fait que ce sang coule, sa vie aussi serait ôtée. Il allait mourir là, sur cette croix. Il nous a dit, faites ceci en mémoire de vous. Et à chaque fois que vous mangerez et prendrez la coupe, on va annoncer sa mort, bien sûr. On va annoncer sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'il est parti nous préparer une place afin que là où il est, que nous puissions aussi être avec. Et en attendant, nous avons ce symbole, ce geste fort dans l'assemblée, que nous partageons le pain et nous partageons la coupe. Car voici 1 Corinthiens 11, verset 23, à partir du verset 23. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit et disant, ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Frère Émile, est-ce que tu peux prier pour le pain? S'il te plaît. Et je vais demander à mon frère Eric Messoa s'il veut bien prier pour le vin. S'il te plaît.
Voici l'aurore sort du sol. des merveilles de toi, ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie entière donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé et son cœur brisé.
Majesté, la terre est dans la joie, la terre. Oh,
Merci Père pour cette bonté incomparable. C'est vrai qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et dans ta présence, le cœur tourné vers toi. Seigneur, nous voulons encore contempler ta gloire. Seigneur, tu règnes et puisque tu règnes, ta parole est la vérité qui est la vérité à toute autorité sur nos vies. Nous voulons encore entendre ce matin ce que tu as à nous dire à travers du message, à travers de cette prédication. Nous te prions vraiment que tu puisses encore disposer, ouvrir nos cœurs, que nous garder concentrés, Seigneur, sur toi, sur ta parole. Parce que ta parole est esprit et vie. Ta parole nous purifie, ta parole nous donne la vie. Nous voulons ta parole, Seigneur, aussi qui nous transforme. Ta parole est cette épée à double tranchant. Capable, Seigneur, de séparer moi et les jointures. Et Seigneur, nous sommes là devant toi. Avec le cœur assoiffé de ce que tu veux nous dire. Alors, s'il te plaît, parle encore et que nos cœurs soient transformés pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. Vous asseoir, je vais appeler ton frère Mathieu, qui était déjà avec nous, mais voilà.
Voilà, l'honneur, la majesté, la souveraineté, l'autorité, la reconnaissance, nos vies, ce que nous sommes, sera au Seigneur Jésus, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. On se retrouve, bien-aimés. Autour de la parole du Seigneur ce matin. Remercions Teddy pour la conduite, notre pasteur stagiaire, pour la conduite de ce temps. Voilà, merci à Naël, qu'on encourage, Willy, Eric. Et on veut se concentrer maintenant sur la parole du Seigneur. Pas maintenant. Teddy nous a cité des passages de la parole. Nos louanges sont autant d'expressions de reconnaissance pour notre Dieu, n'est-ce pas? De ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il fait de nous. Il y a un avant et un après Jésus dans notre vie. Et cet après est plus important parce que nous sommes lavés, purifiés, pardonnés, acceptés dans le royaume et puis la fin. La fin, ce n'est pas la tombe, ce n'est pas Tibet, mais la fin, c'est la gloire. Et nous toucherons une partie de ce qui nous attend dans cette prédication. Saluer aussi ceux qu'on a sur Zoom, c'est une habitude. Je vais lire deux textes de la parole pour introduire les propos qui vont suivre. Tous deux dans l'épître de Paul aux Romains. La première lecture, Romains chapitre 8, les versets 23 à 25. Romains chapitre 8, versets 23 à 25. Je lis, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons donc avec persévérance. Et puis, Romains chapitre 15, un seul verset, verset 13, Romains 15, verset 13. L'apôtre dit que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, c'est la version seconde, la version sommaire dit que le Dieu de l'espérance, carrément, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole en nous. Qu'elle nous scrute et nous permet de faire la volonté de Dieu. Parmi tous les titres que l'Écriture donne à Dieu, il y a clairement un titre dont l'objet est d'encourager les chrétiens, que nous sommes, tous ceux et celles qui ont mis leur confiance en Jésus, et bien de les encourager dans les multiples difficultés qui ne manquent pas de nous arriver sur cette terre. C'est l'apôtre Paul qui nous apprend ce titre. Il dira que le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espérance. Venons de le lire. Espérance en quoi? En qui? En Dieu. Mais quelle espérance et pourquoi? Rapidement, le contexte dans lequel Paul écrit cela, il dira un petit peu plus haut hein, du chapitre 15, eh bien, il encourage les chrétiens juifs et non-juifs de s'accueillir les uns les autres comme Christ lui-même nous a accueillis. Il rappelle, Jésus est venu pour les juifs, et les juifs le remercient en tant que tel, en tout cas ceux qui l'ont reçu, et les païens le remercient Dieu parce qu'il a fait preuve d'ouverture, puisque Jésus est venu pour les juifs, mais également pour les non-juifs, puisque nous ne sommes pas juifs, nous. Eh bien, l'un comme l'autre, à savoir le juif et le non-juif, eh bien, a des raisons de remercier Dieu. Et Paul le dira un peu plus tôt. Paul en est certain, l'espoir que représente Jésus n'est pas un espoir qui est utopique, incertain. C'est que depuis la mort et la résurrection de Jésus, c'est une réalité sûre et certaine. Jésus est bien l'espoir des nations que Dieu avait promis. Pour nous aujourd'hui, cet espoir est réel, mais de manière concrète, nous ne la voyons pas de nos yeux. Mais elle est quand même inéluctable. Et c'est fort de cette certitude que Paul appelle les croyants à ne pas douter des situations qu'ils vivent et qu'ils vivront. Parce que Dieu a accompli ce qu'il avait dit, à savoir envoyer Jésus. C'est un fait. Il l'avait promis des siècles en avant et il l'a réalisé. À cause de cela qu'ils ont vu, Jésus être cet accomplissement, Paul dira, dans ce cas, ne doutez pas, mais espérez. Puisque vous avez vu Jésus, vous l'avez accepté, vous sentez bien le changement qu'il a opéré en vous, dans ce cas, espérez pour ce qui va vous arriver. Amen. Mettre notre espoir dans le Dieu de l'espérance. Bien plus qu'être un vœu pieux pour cette nouvelle année, c'est une nécessité pour chacun de nous, bien-aimés. La situation que nous vivons depuis plus d'un an nous le rappelle. Nous avons plus que jamais besoin du Seigneur. Plus que jamais besoin de lui. Paul nous donne ici deux raisons pour lesquelles Dieu, notre Dieu, est aujourd'hui encore pour nous le Dieu de l'espérance. La première raison est que la pleine réalité de notre salut est bien à venir. Le meilleur pour la fin. Parce que si nous avons reçu de Dieu par Christ la promesse de notre salut, nous le constatons bien, nous ne sommes pas entrés en pleine possession de cette gloire, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans le monde là. Un monde qui se détériore de jour en jour. De même que nos corps. Les maux sont là, les maladies sont là. La pandémie est là. Et j'en passe. Et des pires. Ce monde sous l'influence du péché et de Satan nous montre bien que ce n'est pas un monde de gloire, celui qui nous est promis. Donc cette réalité est à venir. Nous l'attendons. Nous devons l'attendre. Nous devons hâter cela. L'Épître aux Hébreux, l'auteur dira, « Or la foi est la pleine assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration encore de celles qu'on ne voit pas encore. » Hébreux chapitre 11, verset 1er. Ça veut dire que ce qu'on espère, nous, et nous le verrons en découlant cette prédication, ce qu'on espère, bien-aimé, ce sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et vu qu'on espère cela, la foi, dit l'auteur, est le fait qu'on soit pleinement sûr que cela arrivera. Ça s'appelle la foi. Et le frère Uras l'a dit avec beaucoup de force, la sœur Viviane aussi, nous y croyons, bien plus, nous l'espérons. C'est la foi. L'Écriture rend témoignage de beaucoup de personnes qui ont eu cette foi. C'est dans ce même chapitre 11 d'Hébreux. Ce matin, nous reverrons des choses que nous savons déjà. Mais nous les savons tellement bien que des fois, on a besoin de les revoir. L'Écriture rend témoignage de tous ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, qui ont vécu non en réalité, ni en fonction des réalités présentes qu'ils côtoyaient, mais à la lumière d'une espérance qu'ils ne voyaient pas. L'horizon. Regardons Abraham, comment il a vécu et ce qui le motivait tout au long de son pèlerinage. Versets 8 à 10 d'Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit comment? Sans savoir où il allait. Qui part sans savoir où il va? Réponse Abraham. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, puisqu'il l'était étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça, c'est Abraham. qui partit avec toute sa famille sans savoir où il allait, sur un ordre. Ça nous paraît simple parce que ce sont des lignes qu'on lit. Mais en théorie, évidemment que ce n'est pas simple. Mais nous avons fait ce pas, bien-aimés, vous savez. Quand nous avons dit oui à Jésus et non au monde, nous avons fait un pas aussi. Versets 13 à 16, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » On rappelle la foi, c'est qu'on espère ce qu'on ne voit pas, ce qui viendra. Donc, ils sont tous morts comme ça, en croyant qu'ils auraient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire durant leur pèlerinage ici-bas, s'ils avaient considéré ça comme leur patrie, ils auraient eu le temps d'y retourner. Abraham aurait eu le temps de retourner à Ur. Mais non, il est né à un endroit et il a considéré que ce n'était pas chez lui. Parce que Dieu lui avait fait des promesses. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Parce que ce qui est meilleur est céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Une cité. Considérons Moïse et ce qui fut la raison de son renoncement également à une vie facile dans le pays, dans le palais de Pharaon. Versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Bien-aimés, ces jours-ci, je suis en train de faire un cours à l'Institut biblique de nos gens sur l'Antiquité. Il n'y avait pas plus grand que l'Égypte en termes de richesse, de société évoluée, de domination militaire. Eh bien, l'Écriture nous dit que Moïse a mis ça de côté. Pourquoi ? Et là, je vous réfère à la Genèse, pour aller au milieu d'un peuple qui souffrait. Où est la logique? Il n'y en a pas, c'est la foi. Il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire la dernière paye. On peut continuer. Prenons modèle sur les martyrs de foi qui nous ont précédés et sur ceux qui aujourd'hui encore paient le prix fort, celui de leur vie, pour plutôt que de renier l'espérance qui les habite. Versets 35 à 40. D'autres furent livrés au tourment. Et puis, chose plus surprenante, et n'acceptèrent point de délivrance. Ça veut dire qu'ils auraient pu obtenir une délivrance. Mais ils ne l'ont pas voulu. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde finalement n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ici-bas, parlons bien. Voilà le modèle de tous ces hommes et de toutes ces femmes que l'Écriture cite en exemple, qui ont espéré contre toute espérance en Dieu. Voilà les modèles que nous sommes appelés à vivre ici-bas tous les jours. Ne regardant pas les délivrances du lendemain ou de l'après-lendemain, mais bien les promesses éternelles qui nous sont faites. Vous savez, les promesses éternelles que Dieu nous a faites, aucune n'est terrestre. Hein? Elles sont toutes célestes. La gloire, la non-maladie, et je pourrais en citer plein, toutes elles sont célestes. Alors, des questions du coup viennent naturellement quand j'entends cela. Quelle est la vision qui domine ma vie? Est-ce que c'est plutôt celle de la réussite du bien vivre présent? Non pas que ce sont de mauvaises motivations, mais est-ce que c'est cela qui motive nos réflexions quand nous nous levons? Est-ce que je ne cherche pas à trouver toutes sortes de solutions pour résoudre mes problèmes et que cela, du coup, envahit mes pensées en oubliant que le Seigneur a dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Est-ce que ma vision est juste d'une vie polie où les difficultés sont à fuir? Est-ce plutôt la foi d'Abraham que je veux prendre en exemple et embrasser, à savoir celle d'une cité céleste dans laquelle je suis appelé à habiter pour l'éternité? Est-ce celle de Moïse qui, à cause de la récompense qui en découlait, préféra l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes? Est-ce celle des martyrs, certainement cet exemple le plus terrible, qui, à cause de la gloire qui allait en résulter, donc résulter à ce qu'ils subiraient, ont préféré ne pas sauver leur vie ici-bas? Cette épidémie nous pousse dans nos retranchements. Personne ne peut dire le contraire. Toutes sortes de retranchements. Et je crois que par la pédagogie qui est celle de Dieu, il s'en sert pour nous permettre de franchir des paliers avec lui, de passer dans d'autres classes à son école. L'exemple de tous ces hommes témoigne que ce qui fait notre espérance profonde, eh bien, oriente de manière décisive les choix que nous faisons. Si nous nous voyons en route vers le ciel, nous ne vivrons pas comme si nous nous voyons vivre sur la terre. C'est pas besoin d'avoir fait bac plus 4 pour comprendre ça. Les choix qu'on fait quand on se voit vers le ciel ne sont pas les mêmes. Ils sont même opposés. C'est ce que l'apôtre Paul, en Romains 12, justement, appelle ne pas se conformer dans le monde dans lequel nous vivons, mais au contraire, que notre intelligence soit renouvelée, transformée par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui, dans ma vie quotidienne, qu'est-ce qui, dans mes préoccupations journalières, mes priorités, témoigne du fait que je ne vis pas, alors que c'est impossible, c'est un euphémisme, mais éternellement sur la terre, mais plutôt que toutes ces décisions font comme si je suis en route vers le ciel. C'est la première raison dont parle l'apôtre Paul. Notre pleine réalité des choses, de notre espérance est à venir. Mais ces exemples d'hommes et de femmes, ils en ont été dignes. Nous devons en être dignes. Il est même dit d'eux que le monde n'était pas digne d'eux. Il faut, je le prends simplement, hein, comme la parole nous le dit, que ma vie ne soit pas digne de la vie d'ici-bas, ne soit pas digne des standards imposés par le monde. Et en gros, marcher à contre-cours. Pour le Christ, qui lui a livré sa vie, parce qu'il était à contre-courant, mais parce qu'il annonçait aussi la vérité. La deuxième raison dont parle l'apôtre Paul est la présence du Saint-Esprit même dans nos vies. Celui qui accepte Jésus, le reconnaît comme son sauveur, et fait tout pour que durant son pèlerinage, il soit son Seigneur, a le Saint-Esprit. Et nous pouvons déjà savoir à quoi notre vie de sauvé, ici dans le sens de délivrer, eh bien, nous pouvons savoir à quoi ressemblera cette vie par le fait que, par le Saint-Esprit en nous, nous en faisons l'expérience tous les jours. En faisant un petit peu le monde des religions pour voir un peu le privilège que nous avons, nous réalisons très vite que chacune d'elles, d'une certaine manière, offre à ses fidèles une forme d'espérance. Le bouddhiste, par exemple, il aspire au nirvana, cet état un peu néant où il n'y a pas de désir, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. C'est un état neutre. Le bouddhiste aspire à ça. Le musulman, lui, il espère que Dieu sera clément envers lui et qu'il prenne en compte ses efforts pour mener une vie droite en faisant toutes sortes de rituels, en remplissant un certain nombre d'obligations. Les catholiques, certains en tout cas, n'étant pas sûrs d'hériter la vie éternelle, eh bien espèrent que le passage à la case purgatoire ne sera pas trop long ou douloureux. Mais l'espérance qu'a l'enfant de Dieu, celui qui a mis sa confiance en Christ, donc, n'a rien à voir avec ses espoirs incertains. Parce que notre espoir ne s'appuie pas sur ce que nous pouvons faire, mais plutôt ce que Dieu a fait pour nous. C'est là que nous nous réfugions. Ce que le Tout-Puissant a fait pour nous, non pas que nous, incapables de faire quoi que ce soit, nous puissions faire quelque chose. C'est là toute la nuance. Uniquement basée sur la grâce de Dieu. La grâce, cette faveur non méritée. L'apôtre Paul dira, Romains 8, verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » L'esprit de Dieu est en nous. Et imaginez, ce Saint-Esprit qui est en nous, bien-aimés, est le même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous prenons conscience de cela. Jésus est revenu à la vie par l'Esprit de Dieu. Ce même Esprit, il l'a fait habiter en nous. Comprenons-nous cela? Est-ce que nous avons le pouvoir de ressusciter des gens dans ce cas? C'est pour montrer le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas un petit esprit. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas celui du monde. Non. C'est celui qui a ressuscité celui qui, depuis qu'il est venu sur terre, a changé la face de l'humanité. Et a rempli le royaume de son Père d'hommes et de femmes comme nous. Et nous pouvons avoir l'assurance que cet esprit qui nous est donné ne l'est pas provisoirement pour nous être ensuite retiré. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14 dit: vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce n'est pas le scellé des hommes, hein? C'est le scellé de Dieu, celui qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, un avant-goût pour nous montrer tu es à moi, il y a quelque chose qui t'attend plus tard. C'est un gage, je te donne cela en attendant le reste. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pour sa seule gloire, il l'a fait. Le Dieu qui ne ment jamais, sa parole et ses promesses devraient suffire. Eh bien non, il a fait plus. Malgré le fait que sa parole devait suffire, il a fait plus que parler. Il a agi en nous greffant à son propre Fils. De manière à ce que déjà nous vivions de sa vie, de la vie du Christ. Donc le Saint-Esprit est un gage, un don, mais il nous communique la vie de Christ pendant tout notre pèlerinage ici-bas. De sorte que nous puissions livrer bataille contre nous-mêmes, nos mauvais penchants, et le frère Adrien nous l'a rappelé la semaine dernière, contre nous-mêmes, contre le monde et contre l'adversaire, le diable. Parce que le Saint-Esprit, dans son mandat, nous communique la vie de Christ qui a résisté à la tentation du démon. Il nous a donné cet esprit, répandu son amour dans nos cœurs, de sorte que même dans l'épreuve, dit Paul, et également nous l'apprenons dans l'épître aux Hébreux que nous avons lu, et bien de sorte que même dans l'épreuve, nous puissions nous réjouir, non pas de l'épreuve, hein, de l'espérance de la gloire qui est à venir. Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus que cela, nous nous glorifions même des afflictions, parce que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire produit l'espérance. Or, bien-aimé, l'espérance de Dieu, elle ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Ça veut dire que dans nos difficultés, nous savons deux choses. Que Christ est avec nous et cela même les jours où nous n'en sommes pas sûrs. Parce que la pédagogie de Dieu est telle qu'elle est ainsi, j'ai envie de dire. Je ne l'explique pas. Mais nous ne sentons pas toujours cela. Et pourtant, il est quand même là. Et puis la deuxième chose, c'est que nous savons que l'épreuve a une fin. Si elle ne se termine pas ici-bas, elle se terminera là-haut. Et nous ne devons pas être dupes. La vie de disciple de Christ n'est pas faite pour être rose. Parce que Christ a été tué, lui. Et que nous ne sommes pas plus grands que lui. La délivrance est certaine. Si elle ne l'est pas ici, ben elle le sera au ciel. Amen. Contrairement à ceux qui malheureusement mettent leur espoir de salut dans des hypothèses, notre espérance ne trompe point. Parce que non seulement Jésus-Christ a tout fait pour que nous soyons en paix avec lui, et il l'a fait une fois pour toutes, mais nous avons en nous le témoignage intérieur de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qu'il a répandu en nous. Que nous vaut-il de plus? Que nous faut-il de plus? Romains 8, 9 dit, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Mais le contraire est aussi vrai alors. Si quelqu'un a l'esprit de Christ, il lui appartient. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. Par la grâce de Dieu, nous avons été choisis pour le glorifier durant notre pèlerinage ici-bas. Voici notre mission. La Bible est extrêmement prolifique sur ce thème de l'espérance. Chacun de nous pourrait passer sa vie entière à étudier les textes. Je crois que cela serait bon, vu les temps que nous vivons, ou même après, quand cette situation sera terminée, peut-être qu'on sera encore plus stigmatisé. Les actualités politiques nous montrent que c'est déjà le cas, n'est-ce pas? Ces derniers temps, le ministre de l'Intérieur fait des déclarations assez particulières sur les évangéliques. Nous devons nourrir notre espérance. Elle est acquise, mais elle doit se travailler afin que devant l'épreuve, nous soyons victorieux. Christ nous délivrera de toutes nos épreuves. Les Écritures associent l'espérance à 5 axes. Le premier axe, c'est la gloire de Dieu. Dans Romains 5, verset 2, ou encore dans Colossiens 1, 27, ce sont des textes que vous pouvez étudier à la maison. Il y en a beaucoup. Mais le premier, c'est l'espérance, gloire de Dieu. Romains 5, 2, Colossiens 1, 27, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Le second axe, c'est la justice. Galates 5, 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Le troisième, c'est l'espérance est liée au salut. 1 Thessaloniciens 5, 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casse l'espérance du salut. Le quatrième axe, c'est Jésus-Christ lui-même, bien sûr, notre Sauveur. 1 Timothée chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, quoi? Notre espérance. Le cinquième axe, c'est la vie éternelle. Tite chapitre 1er, verset 1 à 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et de la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Notre espérance, celle que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu, est toujours liée au ciel, bien-aimé. Toujours liée au ciel. Ou encore aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Toujours. Nous espérons pour la finalité. Et nous espérons dans cette vie également. Nous avons l'Esprit pour nous aider à vivre ici-bas. Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Matthieu 28, 28. Le retour de Christ est le moment où cette espérance se réalisera pleinement. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement à cause de toutes ces vérités que nous avons entendues. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1:13. Et j'en conclurai ainsi. Un des grands sujets de prière de Paul pour les chrétiens, quels qu'ils soient, hein, on le voit dans ses lettres, est qu'ils soient conscients de l'espérance qui s'attache à l'appel qu'ils ont reçu de Dieu d'être ses fils et ses filles. Nous avons reçu un privilège énorme qui mérite que notre vie soit réglée selon les préceptes divins. Que nos pas empruntent les pas de Jésus. Que tout ce que nous sommes en tant que personne soit voué à notre Sauveur, qui doit être notre Seigneur tout au long de notre pèlerinage. Parce que nous avons une patrie qui est en train d'être préparée pour nous, et ce sera beau. Amen. Je vous invite à prier encore. Notre Dieu, quelle grâce. Quelle grâce pour nous d'être instruits par ta parole. Quelle grâce pour nous d'être les bénéficiaires de ton salut. Quelle grâce pour nous d'avoir été greffés à Jésus. Quelle grâce pour nous d'avoir le Saint-Esprit en nous qui nous rappelle les paroles du Seigneur Jésus, qui nous convient de péché, de justice, de jugement. Quelle grâce pour nous d'avoir cette espérance, celle qui ne ment point, parce que c'est toi qui l'a dite et qui l'a donnée. L'espérance qu'un jour, nous serons pour toujours avec toi. Là où il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni difficultés, ni maladies. Mais au contraire, ce sera la joie, la félicité, le bonheur éternel. Même si nous ne comprenons pas tout, Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit simplement à vivre pour toi. Sans compromis. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.